France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dante a eu 700 ans en 1965, anniversaire que ses lecteurs n'ont pas manqué de fêter sur France Culture. À cette époque, son œuvre commençait à être introduite en France grâce à l'immense travail de traducteur d'un amoureux de Dante, André Paysard. C'est François Val, philosophe et éditeur, fondateur aux éditions du Seuil de la collection L'Ordre philosophique, qui présentait cette série constituée de plusieurs plages de lecture réparties dans la journée. L'entreprise était conçue par des hommes de culture, de Barthes à Umberto Eco, en passant par Philippe Sellers ou Maurice de Gandillac. Depuis, la traduction de Dante a été refaite, assouplie et modernisée par Jacqueline Risset. Mais comment ne pas être bouleversé par ce texte qui a inventé la langue italienne.
L'Office de radiodiffusion et télévision française vous prie d'écouter une journée dédiée à Dante, pour le 7e centenaire de sa naissance. Une émission de François Val, réalisée par René Jantet. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Assistante de production, Ève-Augustin Enrault.
Le plan d'ensemble de cette journée est simple et a été établi à partir des quelques idées que voici. D'abord, convenons-en, les Français ne connaissent pas Dante. Ils n'en ont au mieux lu que quelques extraits. Donc, il s'agit de rencontrer cette œuvre, de nous mettre au contact de ces textes qu'en vérité nous ignorons. Encore fallait-il posséder une traduction de Dante, une traduction qui restitue à la fois l'archaïsme de la langue, la poésie des sons et des images, l'articulation de la pensée. Et la chance majeure de cette émission, ce qui en fait l'a rendue possible, c'est l'achèvement de la traduction du professeur André Paysard, qui va paraître prochainement dans la bibliothèque de la Pléiade. Je n'hésiterai pas à dire que c'est la première traduction de Dante en français. Pour la première fois, les Français vont pouvoir entendre Dante sans avoir un texte aplati, une paraphrase laborieuse, ou une reconstruction absurdement XVIIe siècle. Chaque heure donc, pendant 20 à 30 minutes, seront lus des extraits de la comédie. Je dis bien lus, car la comédie n'est pas une pièce de théâtre, mais un poème à plusieurs voix. Chacun des trois cantiques donnera lieu à trois lectures successives qui suivent son plan d'ensemble, avec une lecture supplémentaire, une quatrième lecture pour le paradis. En outre, on entendra de larges extraits de la première œuvre de Dante, la Vita Nova, les autres œuvres, poèmes, monarchies, banquets, lettres, seront évoquées rapidement au cours des entretiens. Car nous demanderons en second lieu à des spécialistes du XIIIe siècle d'éclairer notre lecture de Dante. Ils replaceront Dante parmi ses contemporains, mais pour ce faire, il leur suffira de retrouver les pages où Dante lui-même décrit le monde politique, artistique et intellectuel de son temps. Et du même coup, se trouvera dégagé le choix propre de Dante, le parti que sur chaque point il a pris parmi tous ceux qui étaient possibles alors. Ainsi seront successivement discutés, à partir de l'enfer, la politique de Dante avec Jacques Madaul, puis sa rhétorique avec Roland Barthes, à partir du purgatoire, sa poétique avec le professeur Renucci, à partir du paradis, la littérature courtoise avec le professeur Maroux, et la philosophie de Dante avec le professeur Maurice de Gandillac. Autant que de retrouver Dante en son temps, il nous a paru essentiel de trouver Dante en notre temps. C'est le troisième thème de notre journée. Or ici, un choix important s'imposait. On pouvait chercher dans la littérature contemporaine des thèmes d'esprit dantesque. On les rencontre par exemple chez Claudel, chez Saint John Perse. Mais ce n'est pas par ces thèmes que la littérature d'aujourd'hui se définit et ce n'est pas non plus par eux qu'elle se retrouve plus proche de Dante. Nous avons donc pensé qu'il était plus intéressant de chercher des œuvres qui, par leur méthode même, par leur projet de construction, soient proches de l'entreprise dantesque. Là-dessus, nous nous expliquerons en détail dans la journée, disons seulement pour l'instant, qu'on entendra de la sorte d'abord un extrait de l'Ulysse de Joyce, dans la partie de la journée consacrée à l'enfer, puis une création, un oratorio de Luciano Berio et Edoardo Sanguinetti, Laborintus 2, écrit pour cette journée, et enfin des extraits du Capriccio Italiano d'Edoardo Sanguinetti et de la Bibliothèque de Babel de Borges dans la partie de la journée consacrée au paradis. Tous ces thèmes, thèmes de Dante en son temps, thèmes de Dante en notre temps, seront rassemblés dans deux tribunes qui encadreront l'heure du dîner. La première, Dante en son temps, nous permettra de nous entretenir avec le professeur Pézard lui-même. La seconde, Dante en notre temps, nous permettra d'interroger sur leur lecture de Dante trois auteurs contemporains, le critique italien Umberto Eco, Edoardo Sanguinetti et Philippe Sellers. Pour nous résumer d'un mot, nous avons tenté d'aller aussi loin que possible vers le XIIIe siècle et aussi loin que possible vers aujourd'hui, avec la conviction que c'était en poussant dans les deux directions, vers les deux extrêmes, que la proximité apparaîtrait le mieux.
Michel Bouquet interprète le rôle de Dante, Jean Topart celui de Virgile, Louise Comte, sociétaire de la Comédie-Française, Béatrice, avec Catherine Sellers, Louis Arbessier, Roger Carle, Marcel André, Jean-Roger Cossimon, Patrice Galbeau, Julien Guillaumard, Jean Mauvais, Jacques Degore, Jean-Pierre Lituac, Jean Brassat, Maurice Nazil, Pierre Decaze, Yves Penaud, Jacques Lalande. Les thèmes musicaux illustrant la comédie ont été retrouvés et orchestrés par Charles Ravier. Marielle Nordman, harpiste, Pierre Poulteau, Hugues Atterman, Michel Sanvoisin, flûte à bec, Roland Mancini, cor anglais, Guy Robert, luth, les ont interprétés sous la direction de Charles Ravier. La traduction de la comédie est d'André Pézard, Bibliothèque de la Pléiade.
Un mot avant de commencer la première lecture de la comédie qui, soit dit une fois pour toutes, ne s'est jamais appelée divine, sinon dans la bouche d'admirateurs niais. Un mot donc sur le vocabulaire de la traduction d'André Pézard. Écrite dans le décasyllabe de la chanson de Roland, mais sans rime, cette traduction recourt à un certain nombre de termes français archaïques. Pour la plupart, ils sont encore connus et ne présenteront aucune difficulté. Quelques-uns peuvent surprendre un instant, mais on s'y habituera très vite. Ce sont acquasé pour apaiser, occoison pour occasion, guerdon pour récompense. Parmi les particules, va pour déjà, laise pour vers. Léant s'oppose à séant. La seule difficulté réelle peut tenir à la particule ins qui ne doit jamais être confondue avec ainsi. Ins signifie tantôt mais, il ne pleurait point ins accueillait chantant, et tantôt avant, il faut que mon devoir j'acquitte ins de partir. Signalons enfin qu'André Pézard a traduit systématiquement les noms propres. Nous ne nous sommes permis pour l'écoute qu'un tout petit nombre de modifications avec l'autorisation de l'auteur. Les deux premiers chants de la comédie diffèrent de tous les autres par un ton allégorique qui ne reparaîtra plus. C'est la semaine sainte de 1300, année jubilaire. Dante est au milieu de sa vie, il a 35 ans. Il s'est perdu dans une forêt, le péché, le sommeil de l'âme. Une montagne, un puits, ensoleillé, se découvre par où sortir de ce sombre vallon. Mes amis côtes, le chemin est barré à Dante successivement par une lonce, c'est-à-dire un léopard, image de la luxure, puis un lion, l'orgueil, puis une louve, l'avarice. Dante est contraint de redescendre. Et soudain, il rencontre une ombre, le poète de Mantoue, Virgile. Tel est le prologue de la comédie.
Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais par une selve obscure et vis perdue la droiturière voie. Ah! Comme à la décrire est dure chose cette forêt sauvage et âpre et forte, amère étant que mort n'est guère plus. Comme y entrer, ce ne sais-je redire, tant j'étais plein de sommeil en cette heure où je mis abandon le vrai chemin. Mais quand je fus au pied d'un puits venu, où se bornait enfin cette vallée qui m'avait pénétré le cœur d'angoisse, pour lors, fut apaisé un peu l'effroi. Et comme s'il, qui sortit de la mer, reprend pied haletant sur le rivage tourné vers l'eau périlleuse et la guette, ainsi mon âme, encore jetée en fuite, se revira, guettant le mauvais pas qui jamais ne laissa personne vive. Et voilà presque à l'assise du tertre sourdre une lonce, outre vive et légère, son poil était couvert de brunes marques. Elle ne se partait d'en face, moi, un s'empêchait très aigrement ma route. Bien vrai que m'octroyait bonne espérance de cette bête au riolant pelage le temps du jour et la douce saison, mais n'eurent-elle pouvoir contre l'effroi qui me saisit d'un lion paraissant. Il me semblait qu'il vint de roide vers moi, plein de rageuse faim, la tête haute, puis une louve qui, dans sa maigreur, semblait chargée de toute convoitise, après me mit en tel point de détresse que je perdis l'espoir de la hauteur. Tandis qu'au plus bas lieu j'allais tombant, fut à mes yeux une figure offerte, qui semblait enrouée par long silence. Quand je la vis parmi le grand désert, si lui crier, miséréré de moi, qui que tu sois, ombre ou homme certain.
Homme ne suis, mais fus homme jadis. J'étais parmi les ombres en suspens, quand m'appela, sainte et belle, une dame. De ses commandements donc la priai-je. Luisants furent ses yeux plus que l'étoile. Elle se prit souèvement à dire, à voix angélielle en son parler.
Âme courtoise, ô douceur m'antoine, dont le renom dure encore sur la terre et durera pour longtemps qu'elle roule. Le mien ami, ami nom de fortune, en son chemin sur la déserte plage, est si fort empêché que peur le chasse. Je crains qu'il ne soit déjà si esmari qu'à son secours je me sois tard levé, selon ce que j'ai su de lui au ciel. Porte vers lui ta parole à orner. De tout soin besognable à son salut, aide le temps que j'en sois consolée. Je suis Biétrice qui dit aller te presse. Je viens du lieu où rentrer je désire. Amour, par qui je parle ainsi, m'amuse.
Après qu'elle eut cette raison finie, ses yeux luisants de pleurs, elle détourne, par quoi elle me fait plus prompt à court. Et me voici, comme fut son vouloir.
Virgile, ainsi mandé par Béatrice, va guider Dante à travers les trois lieux éternels, enfer, purgatoire, paradis.
Je juge donc pour ton bien, et je loue que tu me suives. Et je serai ton guide, te hors-jetant d'ici par lieux éternes où s'entendent les cris du désespoir, où se voient les dolents esprits antiques, dont chacun hurle à la seconde mort. Puis tu verras ceux-là qui sont contents de dans le feu, espérant tôt ou tard venir parmi les âmes bienheureuses. Jusque où, si tu veux monter ensuite, une âme y veillera, plus que moi digne. À elle, en mon partir, te laisserai.
Et moi à lui, poète, par ce Dieu que tu ne connus point, je te requiers, pour que ce mal je fuis et autre pire, que tu me mènes là où tu as dit. Si que je vois le porche de Saint-Pierre et ce premier que tu fais si dolent, l'or se mut-il et moi le pas tenant.
Porte de l'enfer, qui est, lui aussi, œuvre de l'amour divin.
Par moi va-t-on dans la cité dolente, par moi va-t-on dans l'éterne douleur, par moi va-t-on et mille agents perdus. Justice mue mon souverain auteur, ouvrage suit de divine puissance et très haute sagesse et prime amour. Nulle chose avant moi ne fut créée sinon éterne, et je dure éternel.
Vous qui entrez, laissez toute espérance. Ces mots empreints d'une couleur obscure furent écrits au sommet d'une porte.
L'Anté en fer est habité par les tièdes qui n'ont su choisir ni bien ni mal.
Là, durs soupirs, plaintes et cris aigus résonnaient par la nuit veuve d'étoiles. De quoi me prie maintenant à pleurer? Langues étranges et horribles jargons, paroles de douleur, accents de rage, voix hauts montées et floues, et mains sonnantes faisaient ensemble un tumulte qui roule sans fin par l'air merveilleusement sombre. Comme sablon lorsque les vents tournoient.
C'est,
me dit-il,
la misérable guise que tiennent ceux à tas dont le cœur morne, vécu sans infamie et sans louange. Le ciel, pour n'être pas moins beau, les chasse, et le profond enfer ne les reçoit. Ne devisons point d'eux, regarde et passe.
Le spectacle de l'enfer se découvre. Un entonnoir souterrain, système de cercles concentriques de plus en plus étroits au fur et à mesure qu'on descend. Nuit et nuages. La vallée est dite ennublée.
De vrai, je me trouvais dessus le bord de la vallée d'abîmes douloureuses où sans fin gronde un orage de plaintes. Creuse et obscure était, si ennublée que j'avais beau ficher au fond ma vue, je n'y pouvais distinguer nulle chose.
Or, nous faut descendre au monde aveugle. J'irai premier et tu seras second.
Le premier cercle, les limbes. C'est moins l'enfer qu'une sorte de paradis sans la grâce, où sont les âmes des justes, nées avant le Christ ou loin du Christ. C'est là que séjourne habituellement Virgile, avec les poètes antiques guidés par Homère, avec les philosophes guidés par Aristote, païens mais aussi musulmans.
Ici, autant comme on put écouter, plainte n'y a, fort que de lents soupirs lesquels faisaient l'air éterne trembler. Ceci advient pour un deuil sans martyr qu'au fond de l'âme on s'effoule très grand.
Or saura, sans aller plus loin guère, qu'ils n'ont péché. Et s'ils ont leur mérite, ce n'est assez, car ils n'eurent baptême, lequel est clé de la foi où tu crois. S'ils vécurent avant la loi chrétienne, ils n'adorèrent Dieu bel et dûment, et je suis un de ces bannis moi-même. Pour tel défaut, non point pour autre blâme, somme perdue. De ce seul trait blessé que sans espoir vivons en désirance.
Mais, attends, une voix se fait ouïr.
Rendez honneur au très digne poète, son ombre est de retour qui nous manquait.
Puis, quand la voix tomba et s'éteignit, je vis venir quatre grandes figures. Leur semblance n'était triste ni gaie, et le bon maître alors reprit.
Admire celui qui tient dans la main cette épée. Il va devant les trois comme leur sire. C'est lui le souverain poète, Homère. Vient après lui Horace, satirique. Ensuite Ovide, et pour finir Luc.
Nous parvînmes au pied d'une ferté, noble châtel et cette fois saint de mur, que garde entour une belle rivière. Nous la passons comme on fait terre dure, par cette porte j'entrai avec ces sages. Là fut un pré de tant fraîche verdure. Jean y avait, aux regards lents et graves, de grande autorité en leur semblant, rare leur dit et à voix de douceur. Nous retirant dans un coin de la prée, en lieu haut et ouvert, et clairvoyant, la noble cour se pouvait voir très toute. Je vis Électre avec maint compagnon, entre qui je connus Hector, aîné, et César fer vêtu, aux yeux de griffe. Je vis Brutus qui déchassa Tarquin, Mars, Julie, et Lucrèce et Cornille, et scellait à l'écart le Saladin. Puis relevant un petit le sourcil, je vis le maître à tout homme sachant, assis parmi l'agent philosophique. Tous lui rendent honneur, tous le remirent. Ici vis-je Socrate avec Platon, plus près de lui par devant tous les autres, Euclide, Géomètre et Ptolémée, Hippocrate, Avicenne et Galien, Averroès qui fit le commentaire.
Dante et Virgile sont descendus au deuxième cercle. Cette fois-ci, c'est bien l'enfer. Ici sont châtiés les luxurieux.
Un lieu muet de toute clarté s'ouvre, qui mugit comme fait mer en tempête, si de contraire vent elle est battue. La tourmente d'enfer qui oncle la trêve prend dans sa rage et emporte les morts et les roule. Et les heurte, et les harcèle. Lors, j'entendis qu'à si faite géhenne sont condamnés les pêcheurs de la chair qui font raison céder aux appétits. Et tels les passereaux que les frimas chassent en vol épais, battant des ailes, ce souffle arrache un tas d'esprits mauvais, et ça et là, et haut et bas les rues. Oncle ne les vient conforter nul espoir d'un peu de cesse ou de peine moins âpre.
Parmi ces âmes entraînées par le vent, Dante en remarque deux qui, jusque dans la tourmente, restent ensemble. Il les interroge. Ce sont Francesca de Rimini et son beau-frère Paolo. La beauté de Francesca séduisit Paolo. L'amour de Paolo séduisit Francesca. Ils s'avouèrent leur passion tandis qu'ils lisaient ensemble un roman d'amour courtois. Dans le roman, le personnage de Galeo poussait Lancelot à embrasser Guenièvre. C'est le roman même qui poussa Paolo à embrasser Francesca.
Sur la marine où descend et s'apaise le Pô, suivi d'un large train de fleuve, est assise la ville où je fus née. Amour qui tôt s'enflamme en gentil cœur, et pris s'estuit des beautés qui me furent arrachées, et sa force encore me blesse. Amour, qui onque à l'aimer ne fait grâce d'aimer aussi, aux plaisances de lui me prie si fort qu'encore n'en suis quitte. Amour nous conduisit à même mort.
Ce dit la voix qui pour les deux parlait. Mais dis, en la saison des doux soupirs, à quel signe et comment permis, amour, que connussiez vos incertains désirs?
Ensemble un jour, nous lisions par plaisance de Lancelot comme amour l'étreignit. Seuls étions, et sans soupçon de nous. À plusieurs coups nous fit lever les yeux cette lecture, et pâlir le visage. Mais seul un point fut ce qui nous vainquit. Quand la riante lèvre et désirée vîmes baiser par un si preux amant, c'est lui, dont il n'est sort qui me délie, la bouche me baisa, tremblant d'angoisse. Galeo fut le livre et son trouvert. Et ce jour-là ne l'hume plus avant.
Troisième cercle, les gourmands. Parmi ceux-ci, Tiacco, c'est-à-dire le pourceau, un Florentin. Ce qui compte ici n'est pas sa gourmandise, mais sa patrie. Dante l'interroge sur Florence, la cité partie, c'est-à-dire partagée. Tiacco prédit la lutte entre guelfes blancs et noirs, dont Dante sera victime. Les blancs, les sauvages parce que les ruraux, chasseront un instant les noirs, mais ceux-ci reviendront avant 3 ans, avec l'aide de quelqu'un qui à présent louvoie, Boniface VIII, et se montreront longtemps implacables. Il ne reste à Florence que 2 justes, Dante est sans doute l'un d'entre eux, et la ville est en proie aux passions.
Nous trépassions les ombres accablées sous la pesante pluie, foulant aux pieds leur vaineté à semblant de personnes. Elle gisait sur la terre très toute, fort une qui se mit sur son séant, quand devant soi elle nous vit passer.
Toi,
qui par cet enfer vas entraîner, reconnais-moi si tu sais,
me dit-elle.
Ja fus-tu fait, ainsi que mort me défie.
Et lui à moi.
Ta cité qui est pleine d'envie au point que j'accrève le sac fut mon séjour en la sereine vie. Vous, les bourgeois, vous me nommiez pour celle, coulpe de gueule et celle qui me crève, comme tu vois, à rouir sous l'ondée.
Mais dis, si tu le sais, à quoi viendront les citéens de la cité partie, si aucun juste y est, et la raison pourquoi lui donne assaut telle discorde? Et il reprit.
Après longues querelles viendront au sang, et le parti sauvage chassera l'autre avec mainte offensaille. Puis il faudra que l'une gent trébuche dans 3 soleils, et que l'autre surmonte par la force d'un tel qui hors louvoie. Longtemps tiendra celle-ci le front haut, faisant son joug peser sur la vaincue, pour colère et pour deuil que l'on en prenne. Si 2 justes y sont, qui les écoute? Superbe, envie et avarice règnent, ces 3 brandons qui au cœur boutent feu.
Là, il gauchit ses droits yeux en clincorne, me guigne un brin, et puis baisse le chef et tombe au ray de ses autres aveugles.
Et Virgile ont franchi le 4e cercle, celui des avares et des prodigues. Voici le 5e, celui des coléreux, plongés dans le marais du Styx et se dévorant les uns les autres. Pêcheurs de n'avoir su offrir au soleil de la terre que leur aigreur. L'un d'entre eux essaiera même de faire tomber Dante de sa barque.
Dans la palue qu'on nomme Styx, il va, le triste rue, tombant jusque aux pieds de la maligne côte à face grise. Et moi, qui n'entendais qu'à remirer, je vis, dans ce marais, boueuses gens, nus, au semblant aigre et offensé. Tous entre eux se frappaient, non des mains seules, mais des pieds, de la tête et du poitrail, se tranchant par lambeaux à belles dents.
Par-dessous l'onde, y a gens qui soupirent, lesquels font pulluler cette onde, et sourdre, comme devine l'œil où qu'il se tourne. Pris dans la bourbe, il dit, Nous fûmes tristes dans l'air soif qui du soleil s'allègre, portant au cœur chagrineuse fumée. Or, menons deuil en cette vase obscure. Dedans leur gorge, ils gargouillent ces gloses.
Après ces quatre cercles où sont punies quatre formes d'incontinence, Virgile et Dante rencontrent un soudain obstacle. Une muraille fortifiée ferme les cercles inférieurs de l'enfer comme une ville forte, la ville de Dité ou Dis, c'est-à-dire Lucifer. Il y a là comme une deuxième porte à franchir et dont on veut refuser à Dante le passage.
Cette hautaine tour, bien avant d'être assez faussée, dis-je en suivant mon compte, nos yeux troublés volèrent à sa cime pour avoir vu deux flammes s'y bouter et une autre aussitôt rendre signal tant loin que l'œil la peut choisir à peine. Le bon maître me dit:
Ormès approche la ville, fils, qui de Dis a pris nom, et sa grande hoste et son peuple peineux.
Au fond de la vallée, déjà sans faute, j'aperçois ces mosquées, dis-je, vermeilles, comme au sortir d'une chaude fournaise.
C'est le feu éternel dont elles brûlent par le dedans qui les montre rougies,
dit-il.
Et tu vas voir le bas enfer.
Sur les portes, grouillaient bien plus de 1000, tombés du ciel en pluie. Tous, à grand hargne, disaient:
Qui est cestui qui, n'ayant mort, s'en va par les contrées de la gens morte?
Mon sage maître, aux rebelles, fit signe de leur vouloir parler secrètement. Ainsi s'en va, et seul m'abandonne, le tendre père. Et je reste en suspens, les noms, les oui, en ma tête querelle. Ouïr ne put ce qu'il dit aux démons, mais près d'eux, il n'eût fait longue demeure qu'entre les murs, tous à l'envi rentrèrent. Ces aversiers, ils serrèrent les portes au front de mon seigneur, qui resta hors. Puis d'un pas rare il revint, l'œil à terre, le sourcil ras de toute hardiesse. Et entre ses soupirs allait, disant:
Qui m'a nié les dolentes demeures?
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 26 septembre 1965. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur franceculture.fr.